Vous êtes sur RTL.
Et c'est donc l'heure du journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
De nouvelles règles en vigueur. Dès demain, l'assurance chômage fait peau neuve.
Et ça risque de faire mal avec des conditions d'indemnisation durcies. On va y revenir dès le début de ce journal. À Bayonne, le tireur de la mosquée a été mis en examen, mais la justice refuse de parler d'actes terroristes. Visite surprise et mouvementée hier soir d'Emmanuel Macron à Rouen, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol. Au Royaume-Uni, une petite entreprise recherche un volontaire prêt à lui vendre les droits de son visage pour qu'il soit ensuite reproduit sur un robot. On va vous raconter cette petite annonce étonnante. Et puis le tennis, les Masters de Paris-Bercy et la défaite avec les honneurs du jeune Corentin Moutet.
Marina, deux météos d'ici 6h30.
Nuages et averses, c'est le programme météo de la journée à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. 12 degrés cet après-midi.
RTL Matin.
Et Dominique, l'assurance chômage, nouvelle formule, entre donc en vigueur demain.
Avec des conditions d'accès durcies pour obtenir désormais une indemnisation, il faudra avoir travaillé au minimum 6 mois sur les 24 derniers au lieu de 4 mois sur 28 auparavant. Au total, l'UNEDIC évalue à plus de 700 000 le nombre d'allocataires qui verront leur indemnisation retardée ou bien réduite. Une réforme qui va demander pédagogie pour sa mise en œuvre. 35 000 conseillers Pôle emploi ont été formés. Reportage dans la plus grande agence de France, dans le 12e arrondissement de Paris. Tous les agents sont prêts, mais tout n'est pas encore très clair. Christophe Ponzio.
Derrière son guichet en bois, face à une dizaine d'allocataires, Rachid l'assure.
On est tous prêts.
Conseiller en gestion des droits, il fait partie des 150 employés de cette agence formée aux nouvelles règles et questions sur l'indemnisation des chômeurs.
Comment ça va se passer si je reprends une activité professionnelle? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à mon droit qui est ouvert actuellement? Est-ce qu'on va me le réduire? Est-ce qu'il va être modifié? Ils ont des interrogations, une inquiétude par rapport à ça, mais on est là pour les rassurer.
Pourtant, devant les portes automatiques, Sem, pâtissier intérimaire, se gratte la tête.
C'est pas clair.
Il sort de son rendez-vous pour recharger ses droits aux allocations.
Là, il y a le monsieur d'indemnisation qui me dit que pour moi, ça ne change rien. Et il y a son collègue qui me dit autre chose. Il y a une nouvelle règle qui a été passée. 2000 euros, je peux passer à ne plus rien avoir. Ça fait beaucoup.
Hein. Un flou et des baisses d'allocations, source de mécontentement, anticipe Marine, conseillère Pôle emploi depuis 10 ans.
C'est une réforme qui est assez anxiogène. Par exemple, pour quelqu'un qui croyait pouvoir avoir des droits après avoir travaillé 4 mois, quand il viendra et qu'on lui dira non, maintenant, monsieur, ça sera 6. C'est assez violent à entendre, mais on ne pourra pas faire autrement.
Aucun renfort n'est prévu. Le directeur de l'agence, Abdelkader Drari, dédramatique.
On n'est pas à la première convention d'assurance chômage, puisqu'elle est en principe négociée tous les 3 ans. Donc, on ne va pas changer nos habitudes.
Mais si lui n'y croit pas, les salariés rencontrés s'attendent à un pic d'activité au cours des prochaines semaines.
Christophe Ponzio pour RTL. Comment lutter contre les dérives des plateformes de location? Le ministre du Logement, Julien de Normandie, annonce un durcissement des règles. Désormais, Airbnb et consorts devront communiquer la liste de tous les logements loués aux mairies, adresse, numéro d'enregistrement, nombre de nuitées. Les mairies pourront ainsi lutter contre ces propriétaires qui ont fait de ces locations occasionnelles un vrai business. Ça va mieux si vous prenez le train aujourd'hui et jusqu'à dimanche. La SNCF prévoit 80% du trafic des TGV Atlantique pour les retours de vacances, alors que les techniciens de maintenance entament leur 11e jour de grève.
Claude Cinquet, le tireur de la mosquée de Bayonne, a été placé hier soir en détention provisoire.
Mis en examen notamment pour tentative d'assassinat. Lundi, il a gravement blessé par balle 2 personnes après avoir tenté d'incendier la porte de la mosquée de Bayonne. Une expertise psychiatrique a finalement conclu à une altération partielle de son discernement, ce qui explique que la justice ne parle pas d'un attentat mais d'une attaque. Le parquet antiterroriste, lui, n'est pas saisi de l'affaire. Indignation du fils de l'une des victimes. Écoutez Karim Kariou.
Du haut de ses 84 ans, on va lui dire quoi, ce monsieur?
Il va passer aux assises donc pour une tentative de double assassinat. Je suis pas sûr qu'il en découle quelque chose qui puisse satisfaire les familles. Du fait de son âge avancé, 84 ans, j'ai bien peur qu'on lui trouve des excuses. Je vois l'État qui se défile, le parquet antiterroriste ce matin qui explique qu'il ne se saisira pas de l'affaire. Très bien, si ça c'est pas une tentative d'attentat terroriste, faire un départ d'incendie à la porte de la mosquée pour pouvoir incendier les personnes qui s'y trouvent, faire exploser un véhicule, y asperger de l'essence pendant que la personne s'y trouve à l'intérieur, lui tirer dessus alors qu'elle est à l'intérieur du véhicule pour pas qu'elle puisse sortir, tirer sur les 2 personnes, hein, bien sûr. Hein. Non, si tout ça, c'est pas une tentative d'attentat, non, je comprends pas. Je suis pas sûr que moi, si demain, je vais faire ça sur un lieu de culte, quel qu'il soit, et que je tire à bout portant sur des personnes, que j'ai un sens... Je suis pas sûr que je vais m'en sortir comme ce monsieur, quoi. Nous, on est aimants de tous, aimants de tout le monde, mais c'est pas réciproque. Donc oui, il y a ce sentiment de poids de mesure, injustice.
Karim Kariou, son père âgé de 78 ans, a été grièvement blessé dans l'attaque de la mosquée. Témoignage recueilli par Philippe de Maria pour RTL. Combatif, toujours jusqu'au bout. Bernard Tapie est finalement venu à l'audience hier au tribunal de commerce de Bobigny alors que ses créanciers réclament la liquidation judiciaire de ses deux principales sociétés afin d'éponger les dettes de l'homme d'affaires, plus de 400 millions. Lui refuse, il pourrait perdre son hôtel particulier, abandonner son journal La Provence. Combat crucial pour Bernard Tapie, bien décidé à ne pas se laisser faire.
À l'heure où je vous parle, il n'y a pas un euro exigible de créance. Vous avez entendu ça, là? Il n'y a pas un euro. Alors, quand il y aura des créances qui ont été contrôlées, vérifiées, admises, on parlera d'un plan ou de la liquidation. Voilà. En attendant, c'est du spectacle, alimenté par ceux qui voudraient réussir avec le civil ce qu'ils n'ont pas réussi avec le pénal.
Bernard Tapie au micro, RTL de Cindy Hubert.
La visite n'était pas inscrite à son agenda, mais le président a souhaité se rendre à Rouen hier soir, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol.
Emmanuel Macron a tenu à remercier une nouvelle fois les services de l'État pour leurs compétences, leur sang-froid et notamment les pompiers, premiers à être intervenus sur les lieux du sinistre. Écoutez le chef de l'État.
Je sais le choc d'abord que les habitants de la ville, des villes alentours, le choc qui a été donc ressenti, l'inquiétude qui a été vécue, les odeurs, et les doutes. Quand on vit ce qui a été vécu à Rouen, quand on respire, on le disait pendant des jours et des jours, même des semaines, des odeurs qui sont désagréables, dont on ne connaît pas la dangerosité, même si on vous dit le contraire, c'est très déstabilisant. Et donc ça nourrit forcément de l'inquiétude. Il ne faut pas que cette inquiétude, qui est tout à fait légitime, devienne de la défiance parce que des fausses informations circulent ou parce qu'on se met à dire tout est son contraire. Le gouvernement continuera d'agir, d'abord pour rendre compte de toutes les informations dont il dispose en temps réel, pour continuer à accompagner. On continuera à mesurer, on continuera à informer et on continuera la transparence.
Emmanuel Macron accueilli également par des sifflets hier à Rouen, quelques huées aussi et des échanges plus ou moins tendus avec la population. En route vers le mariage, Fiat Chrysler et PSA ont visiblement décidé de ne pas perdre de temps. Hier soir, le conseil d'administration du constructeur français a accepté le principe d'une alliance, une opération à 50 milliards de dollars pour la création d'un nouveau géant mondial de l'automobile.
6h07 sur RTL, on en vient à cette petite annonce d'un genre un peu particulier. Une start-up britannique recherche visage pour robots humanoïdes.
Oui, contre 115 000 euros, vous pouvez offrir votre visage, en tout cas l'image de votre visage pour qu'il soit ensuite reproduit à l'infini sur des robots d'apparence humaine destinés à s'occuper de personnes âgées. Une demande assez singulière qui ne convainc pas forcément les Britanniques. Marie Billon est allée poser la question dans les rues de Londres.
Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, la surprise suivie de la stupeur. Quelle somme demanderiez-vous pour vendre votre visage à un robot ?
Ouais.
Oh non, mon visage n'a pas de prix. Les robots sont utiles et le progrès est positif, mais il ne faut pas les humaniser. Ils doivent garder un visage de robot.
1 million de livres ? On peut négocier sur les centimes ? Sauf que rencontrer mon double, ce ne serait pas ma tasse de thé. Je n'aime pas l'intelligence artificielle.
Ce monsieur prend un air bougon, mais sans ça, avec sa barbe blanche, il remplirait la seule condition posée au candidat potentiel, avoir un faciès gentil et amical.
Oui, pourquoi pas, si j'ai le droit de mettre du maquillage avant. En fait, je ne sais pas si dans 20 ans, j'aurai envie de voir mon visage sur ces robots, toujours jeunes et belles, alors que moi, je ne le serai plus.
Les 115 000 euros ne la convainc pas, elle propose même une plus petite somme et une cession de droits de seulement 5 à 10 ans.
Marie Billon à Londres.
Vous l'auriez fait, vous ?
Non, moi je l'aurais pas fait.
Ah bah oui, non, moi non plus.
Enfin, peut-être
non.
Pour...
115 000 euros. Pour beaucoup plus.
Le Chili renonce finalement à accueillir la COP25 sur le climat prévue en décembre. C'est un coup dur pour l'image du pays, mais la contestation sociale qui ne faiblit pas rend impossible l'organisation du sommet.
Le tennis à présent, Dominique, au Mastersville de Bercy. Le jeune Corentin Moutet n'aura pas démérité hier.
Oui, le Parisien de 20 ans, 97e mondial, s'est incliné face à Novak Djokovic en 2-7, 7-6, 6-4, avec tout de même 2 balles de 7 dans la première manche. Il n'a clairement pas à rougir de sa prestation. Une défaite pleine de promesses, finalement. Il n'est d'ailleurs pas forcément déçu.
Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a eu des beaux échanges. J'ai pas mal joué, c'est pas parfait, ça le sera jamais, je pense, mais j'essaie de m'améliorer tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des beaux coups, à être bien dans mon match. Le public me poussait, me donnait beaucoup de force. C'est rare pour moi les matchs encore comme ça et c'était vraiment un plaisir. C'est une bonne inspiration pour moi, une bonne expérience et il faut que je m'en serve pour la suite. Je vais tirer beaucoup de choses positives, des choses moins bonnes que j'ai faites, essayer de les gommer ou en tout cas les améliorer pour les prochains matchs. Et puis ça va forcément m'apporter beaucoup de bonnes choses.
Il vous a dit quelque chose à la fin du match ?
Il m'a dit bravo. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je me rappelle plus vraiment. Mais c'est marrant de serrer la main de Djokovic parce que moi je l'ai regardé à la télé quand j'étais enfant. J'ai beaucoup de respect pour sa carrière. Je trouve ça important de lui serrer la main et de lui dire parce que j'ai jamais eu l'occasion de lui dire.
Corentin Moutet au micro d'Isabelle Langer du service des sports de RTL. Joe Wilfried Tsonga, c'est lui défait du numéro 9 mondial italien Matteo Berrettini en 2-7. Il se qualifie pour les huitièmes de finale et puis victoire également en 2-7 de Gaël Monfils hier soir sur Benoît Paire. La Coupe de la Ligue football s'est terminée pour Marseille qui s'est incliné 2-1 face à Monaco. Trois jours après la claque reçue dimanche au Parc des Princes, c'est une période compliquée que traverse le club phocéen.
Et puis les courses à Longchamp.
Et voici les pronostics de Claude Pierre-Santi. Le 8, le 3, le 6, le 15, le 2, l'As, le 7 et le 5. La dernière minute, c'est le 3, la Canche. La course du Quintet à suivre sur sisplay.fr à 13h47.
La Canche, ça vous a...
Ouais, je sais pas, la Canche.
Le numéro 3, donc.
Voilà.
Dernière minute.
Oui,
exactement. Merci beaucoup, voilà. Dominique.